avant le 19e siècle, on ne sait pas grand-chose. Ce que l'on constate, c'est que pour que la pédophilie, qui est un terme apparu très tardivement et qu'on utilise massivement depuis une trentaine d'années, mais qu'on n'utilisait pas avant. Hein. Donc, pour que la pédophilie soit définie comme telle, il fallait d'abord que l'enfant soit identifié comme un être, comme enfant, comme un être à part, comme un être en plein développement, donc un être à protéger si l'on veut, en tout cas un individu qui a besoin de conditions favorables pour se développer et de conditions particulières pour se développer de manière harmonieuse. Or, cette identification de l'enfant comme tel est finalement assez tardive.
Et c'est-à-dire qu'avant, l'enfant, enfin, l'enfant déjà, il mourait souvent.
Alors voilà, il y a cette question effectivement de la question démographique, disons, qui fait que en gros, 50% des enfants mouraient très précocement. Bon, on fait beaucoup d'enfants, et puis ils survivent ou pas. Et surtout, on cesse très tôt d'être un enfant. Sous l'Ancien Régime, on cesse très tôt d'être un enfant. Il ne faut pas oublier que les monarques restent dans les jupes de leur mère, comme on disait, jusqu'à 7 ans, hein, ce qui est l'âge de raison, et puis ensuite, ils passent du côté des hommes, et ils sont formés au métier des armes, à ce qui sera leur métier droit, et donc pratiquement, ils passent sans transition de la petite enfance à une sorte d'âge adulte, ou d'âge pré-adulte. Alors, évidemment, la notion d'adolescence n'existe pas, la puberté est plus ou moins prise en compte, et du coup, ils sont aussi poussés à la sexualité très tôt. Très précocement.
Chez les paysans, chez le peuple aussi, ils sont mis au travail très tôt.
Absolument. Dans les classes populaires, les enfants sont mis au travail, même bien avant, hein. Bien avant 7 ans, très tôt, on les envoie garder les oies quand ils sont tout petits, et puis au fur et à mesure de leur croissance, ils gardent des bestiaux plus volumineux, disons.
Et alors, concernant la sexualité, est-ce que les enfants sont des objets? C'est-à-dire qu'on les prend quand on a des pulsions et puis on les viole?
Ce qu'on trouve, c'est quand même dans un certain nombre de chroniques, il y a quelques mentions, en effet, de petites filles utilisées, sans que ça ait l'air d'énormément choquées, utilisées par des hommes adultes pour leur plaisir sexuel, sans que les parents ou les responsables de ces enfants aient l'air d'en être particulièrement indignés. Je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas si ça tient à la position du chroniqueur sur la question. C'est très difficile à dire. Bon, ce qui est sûr, c'est que les rois de France sont initiés à la sexualité précocement et que aujourd'hui, c'est le cas par exemple de Louis XIV, hein, on interpréterait ça comme un viol.
Oui, voilà. C'est ça. En même temps, les garçons étaient initiés très tôt, voire même enfants,
oui,
avec des femmes de l'âge de leur mère.
Absolument, absolument.
Oui. Puis ensuite, dès qu'ils entraient dans l'adolescence, c'était une femme, une adulte, qui les initiait.
Et puis, ils sont mariés, en tout cas au sein de l'aristocratie et chez les rois, ils sont mariés très tôt aussi.
Avant la puberté?
Parfois, oui, étant entendu qu'on attendra la puberté pour que le mariage soit consommé, mais parce que le mariage et la sexualité ne sont pas des affaires individuelles, ce sont des institutions qui répondent à des impératifs sociaux et politiques. On construit des alliances en mariant les enfants. Et évidemment, on leur demande pas leur avis. Et il ne vient pas à l'esprit de ces enfants, ou exceptionnellement, de donner leur avis d'ailleurs. Ils savent, ils sont éduqués dans l'idée que, eh bien oui, ils seront mariés avec une telle ou avec un tel pour des raisons politiques, diplomatiques, géostratégiques, et que naturellement, leur devoir dans les familles royales et les familles aristocratiques, c'est de donner à la dynastie un héritier. Donc, il faut y aller.
Et alors, quel est le rapport à la sexualité quand on est enfant, ou ce qu'on appellerait aujourd'hui pré-ado ou ado?
Il y a eu un certain nombre de travaux d'historiens, singulièrement d'historiennes d'ailleurs, sur ce rapport à la sexualité. Là aussi, c'est très difficile de formuler des généralités. C'est très différent selon les régions, c'est aussi assez différent selon les catégories sociales. On peut dire que on voit dans certaines régions, et ça on le on le lit dans les archives, hein, dans les dossiers d'archives, des petites filles qui sont assez précocement initiées à la sexualité, soit parce que en milieu rural, or c'est évidemment la population rurale est majoritaire, donc c'est évidemment le plus fréquent, hein, ces enfants, bah, ont devant les yeux quotidiennement le spectacle de la sexualité animale. Donc elles sont assez au courant, et les petits garçons aussi d'ailleurs, sont assez au courant de la manière dont les choses se passent. Et d'autres qui semblent complètement ignorantes, totalement, et jusque tardivement, jusqu'à la puberté. La puberté, c'est le moment où la mère se décide enfin à informer sa fille, à l'instruire de ce qu'il attend, de ce que ça signifie que ce saignement brutal et de ce qu'il attend ensuite. Donc il y a vraiment les deux cas de figure, hein, et il est très difficile de formuler une généralité sur la question. Alors, ce savoir précoce de certaines petites filles, qui par ailleurs peuvent être effectivement assez délurées, confesser au bout d'un moment qu'elles ont des jeux sexuels ou parasexuels entre elles ou avec leurs petits camarades, etc., est évidemment souvent pour les juges d'instruction notamment l'indice que elles sont débauchées et ça fournit parfois au procureur et puis au jury des cours d'assises, la possibilité de dire, bah oui, cette petite fille a été l'objet d'un attentat à la pudeur, hein, mais au fond, elle avait provoqué son agresseur, et donc on la quitte, on considère que tout ça est sans gravité. Les médecins sont mobilisés progressivement sur la question, eux aussi en tant qu'experts, puisqu'ils sont appelés souvent à se prononcer sur la réalité ou non de l'attentat subi par l'enfant. Quand on examine une enfant ou un enfant qui prétend avoir été agressé sexuellement, surtout, on ne lui pose pas de questions, on ne lui parle pas. C'est terrible, hein, les expertises légales à la fin du 19e siècle sont terribles. Il faut l'empêcher de pleurer, même si on lui fait un peu mal, il faut l'empêcher de pleurer. Donc faisons ça d'ailleurs pas chez elle, mais plutôt à l'école de médecine, parce qu'au moins ça l'impressionnera. Au milieu du 19e siècle, un médecin qui a joué un rôle fondamental dans cette affaire, qui est Ambroise Tardieu, publie un article très important sur la question des attentats à la pudeur commis sur les petites filles. Donc il éveille un peu l'attention de ses contemporains à cette question. Il témoigne aussi d'ailleurs d'une forme de sensibilité à cette question en faisant remarquer que ce sont des faits courants et que ce sont des faits surtout qui ont des conséquences sur alors on ne parle pas de psychisme, hein, mais disons sur le développement ultérieur de l'enfant. Donc ça devient un sujet médical en même temps que ça devient, même avant que ça ne devienne un sujet médiatique.
L'intégralité de chacun de ces entretiens est disponible gratuitement sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube.